Bon, bah, on enregistre, les gars, on est enregistré. On commence dans 3, dans 2, dans 1.
Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres.
Vous écoutez Couscous.
Piri piri.
C'est quand même triste qu'on parle de concept d'attaquant buteur. Qui dit ça, la plus du coin.
C'est quoi un attaquant buteur, bordel?
Moi, je pense que je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas des séries, le mouvement va pas mondial. C'est comme.
God never sleeps, man.
Respect, man. Respect.
Et bienvenue à une nouvelle édition du Couscous Piri Piri. J'aime ce show juste pour écouter cette introduction. Et je vous le dis, je l'écoute 15 fois par jour dans mon coin. Donc,
il faut t'arrêter parce qu'à chaque fois, tu rajoutes une 5 secondes. Là,
hein. Dans pas longtemps, elle va durer 10 minutes l'introduction. Donc, bonjour tout le monde, bonsoir, bon après-midi, où ce que vous êtes. Ceux qui nous écoutent, ceux qui nous voient, coucou. Ceux qui nous écoutent, bonjour, bonsoir dans vos oreilles. Sophie avec vous et mon compère, le sous-estimé. Produire de contenu foot le plus estimé dans la vie, dans la province, dans le pays. Nul autre que Nilton George. Bonjour Nilton.
Salut, ça fait un petit bout qu'on s'est pas vu, Sofiane. Mais non.
On voit pas.
Deux fois en 24 heures. On n'avait pas eu assez au dernier podcast. 3 heures, on s'est dit, hey, si on parlait presque de foot.
Ouais. Comme on dit, culture foot, les mecs. Foot.
Ouais. Ou on a des invités spéciaux. Hein. Ça fait longtemps qu'on voulait les inviter, peut-être dans un meilleur contexte, un contexte un peu plus différent, mais là, c'était comme le must, là, c'était le OK. Ouais, on l'envoie dessus, ce courriel-là, là, go. Est-ce qu'ils viennent à notre émission?
Après 10 ans que j'essaie, j'essaie au début, les premières décennies, là, après j'ai arrêté, puis c'est un peu comme le Bigfoot, tu vois. On en parle tout le temps, mais on ne voit jamais, mais on les a, tu sais.
C'est vrai.
On va parler foot avec des membres des Ultra Montréal, donc j'accueille Max et André. Bonsoir, messieurs.
Bonsoir et merci pour l'invitation. Ça fait longtemps qu'on veut venir, c'est juste de trouver le bon contexte.
Il n'y a pas de problème, je comprends. On va parler de tout ça, évidemment, donc merci d'être là. Pour un disclaimer pour tout le monde, pour Nilton et moi, parce que même si on est un binôme, on pense pour nous-mêmes, mais je pense que la dernière fois qu'on va parler du rebranding de l'Impact CF Montréal, de façon détaillée, c'est la dernière fois qu'on va parler pour un bout, jusqu'à des changements, donc tout le monde est un peu tanné de ce sujet dans le sens... en termes de quantité, mais avec vous, c'est la qualité pour avoir votre perspective en tant que membre du groupe Ultra Montréal. Donc voilà, on est là pour ça. Donc, messieurs, on y va sans transition. Max, André, un peu présenté qui vous êtes à Ultra Montréal, qu'est-ce que vous représentez et qui est Ultra Montréal pour la personne qui ne vous connaît pas du tout. Juste un peu présenter le votre projet, entre guillemets.
Vas-y, Max.
Ok, moi, je considère que je suis un des membres qui s'implique beaucoup dans tout ce qui est confection des tricots. Donc ça, pour moi, c'est une partie importante du mouvement. Et puis, ça représente bien le groupe. Donc après, moi, je suis arrivé à Montréal en 2013. Puis j'ai très vite commencé à assister à des matchs dans la tribune supporter. Donc à l'époque, il n'y en avait qu'une et c'était... à 132. Puis petit à petit, comme ça, j'ai intégré le groupe. Puis, je me suis fait connaître auprès des membres et puis eux aussi ont appris à me connaître.
C'est bon. Puis André? Il était une fois, André.
Oui, c'est ça. Moi, dans le fond, j'ai des billets de saison depuis, dans le fond, l'année avant la MLS en 2011. Puis moi aussi, j'ai connu la culture ultra, la culture supporter en Europe. Donc, j'ai naturellement été attiré vers ça ici à Montréal. Puis, je suis impliqué avec le groupe depuis 2012-2013 aussi. À plusieurs niveaux, que ça soit Tifo, que ça soit aussi au niveau de l'organisation en général. J'ai été sur le conseil là, de l'association des supporters qui rencontre le club aussi.
Parfait. Puis pour ceux qui ne connaissent pas les Ultras, c'est un groupe de supporters qui suivent le club depuis un bout. Voilà quoi, c'est Ultra Montréal, vous êtes sur Twitter, Facebook, etc. Pour à votre historique. Est-ce qu'on peut dire que c'est très similaire au groupe de supporters qu'on voit ailleurs dans le monde? dans le sens, dans le classique, moins, j'enlève le côté violence, là, mais dans le style, c'est le même esprit. Ouais. C'est, comme vous avez dit, vous parlez souvent au club en communication, donc quelle soit sa relation quand on voit les clubs européens qu'on suit, les supporters, les groupes de supporters parlent au club, dialogue, etc. C'est, les Ultras font ça aussi depuis, je pense, 2002, je pense.
Ouais, 2002, la fondation du groupe. Qui était dans le temps au centre Claude Robillard. Puis, si vous, on a souvent des photos de ces années-là, des années du début, où ce que tu vois Daniel, là, ça, qui est aussi sur Twitter, qui est un des cofondateurs avec 4-5 autres personnes avec des drapeaux qui ont l'air des fous, que personne ne comprend qu'est-ce qu'ils font en tribune.
Est-ce qu'il en reste encore? Est-ce qu'il en reste encore pas mal de la gang de 2002? Ou, c'est sûr que le rythme de vie est différent. À un moment donné, t'as des trucs personnels, tu sais, t'as des enfants, tout ça, tu peux pas t'impliquer autant, mais tu sais, est-ce que des membres originaux sont encore là de façon permanente ou pas?
Ben, entre autres, Daniel est encore, il est dans le cup, il est moins impliqué dans le groupe, dans le quotidien, mais il est là à chaque match, puis des fois, on le fait monter sur le capot stand juste pour que les gens l'oublient pas sa face. Mais... oui, il y a plusieurs de 2004, 2005, 2007, 2008. Surtout 2008, 2009, il y a eu une grosse augmentation là, du noyau du groupe. Donc, il y a beaucoup de gens de ces années-là qui sont encore actifs.
Comment ça fonctionne exactement, votre groupe? Là, pour les gens vous connaissent par votre démonstration. T'sais, une fois qu'il est organisé, le groupe en match, on connaît votre style, tout ça. Mais la préparation, là, avant, est-ce qu'il y a deux, trois personnes qui dirigent le groupe, qui l'organisent ou c'est des rencontres régulières? Le fonctionnement d'un groupe ultra là, comme le vôtre, ça ressemble à quoi au quotidien?
Ben, moi, je pense que on a un groupe qui est quand même pas mal de membres, donc c'est sûr qu'il y a des personnes qui ont plus d'affinités les unes avec les autres, donc souvent, celles-ci vont discuter en privé d'une certaine idée, soit chant, tifo, peu importe, et puis ils proposent après au reste du groupe, puis le reste du groupe, bon bah le modifie un peu, l'ajuste, ou le valide en temps, directement en fonction de... De l'orientation qu'on veut donner au projet.
C'est quand c'est un tifo, quand c'est un chant, c'est pas un gros problème d'avoir d'avoir une espèce de consensus, mais quand c'est vraiment une ligne directrice, un vrai message, quelque chose que vous aimez pas, quelque chose que vous aimez, quand c'est un message un peu plus fort, c'est impossible que le groupe au complet soit en accord, ça, là, c'est sûr, mais comment que vous... mettez, disons, comme un stamp ultra sur « OK, cette fois-ci, on est d'accord sur ce message-là, c'est important qu'on l'envoie au niveau du public. » Comment que ça se passe?
C'est vraiment via la majorité. Donc, exemple communiqué qu'on vient de faire concernant le rebranding il y a 2 semaines, c'est quelque chose qui a été travaillé. On a 4-5 personnes qui travaillent sur nos communiqués, nos réseaux sociaux, ces choses-là. Puis, ça a été discuté, ça a été proposé. Puis, comme Max disait, ensuite, on le présente au reste du groupe. On modifie quelques...
Des ajustements, là.
Oui, exactement. Puis, ensuite, on le publie. Donc, ça, c'est vraiment pour les messages, les lignes directrices, les messages qu'on veut envoyer, là, en général.
Ce fameux groupe, est-ce que vous êtes vraiment que 200 personnes, comme on entend parler ces temps-ci, ou ça ressemble à quoi à peu près?
C'est une bonne question. Ben, en fait, le COP, les derniers chiffres qu'on a eus, puis ça encore, c'est des chiffres qui nous ont été confirmés par des gens qui travaillent au club, mais sans le faire de façon officielle. Il y a environ 250 abonnés de saison là, dans la 132, puis une quarantaine maintenant en 131 aussi, que nous, on... les 2 sections qu'on inclut comme le COP Montréal. Puis parmi ces 300 personnes-là, mettons, ils sont divisés environ en 5-6 groupes différents, dont les Ultra Montréal, évidemment, mais aussi Fonds commun, la section 131, Bolas Crew, qui est un groupe assez récent, les Montreal Boys. Donc, il y a plusieurs groupes avec plusieurs façons de voir les choses, mais on arrive quand même à s'entendre assez bien dans le cas.
Oui, cette fameuse relation entre les groupes ultra, entre les groupes de supporters et tout ça. Souvent, ce qu'on entend de l'extérieur, puis c'est sûr qu'on entend Les gens, quand les gens vont parler, c'est parce qu'ils vont se plaindre. Ils donnent souvent l'impression que vous prenez toute la place, là, que c'est probablement vous qui décidez de certains trucs, puis vous prenez peut-être une place surdimensionnée. Comment ça se passe au quotidien? Est-ce qu'avec les autres groupes, est-ce que c'est des gens qui quittent votre groupe pour en partir un autre parce qu'il y a une affinité un peu moins forte, ou c'est tout simplement un regroupement qui se fait, puis après vous communiquez? Comment une relation débute entre votre section et une autre? Ça se passe comment habituellement?
Pour les autres groupes, pour ce qui est de la... Si on parle de tous les groupes du COP, souvent, il n'y a pas d'anciens ultras dans les autres groupes du COP. C'est comme, généralement, quand on est ultra Montréal, on reste ultra Montréal. Après, je ne connais pas beaucoup de monde qui a quitté le groupe pour...
Se partir une business sur un coin on the side.
Ouais, ça n'a pas marché, en tout cas. Non, en tout cas, ça. Et puis bon, bah, pour ce qui est de la 1642 en face... C'est complètement autre chose là. Donc on n'est pas dans le. Bon, en ce moment, on dialogue beaucoup avec eux, mais autrement, chacun fait ses affaires de son côté. Et puis,
Habituellement, ce que tu veux dire, c'est qu'habituellement, il n'y a pas vraiment de relation particulière avec eux, mais là, compte tenu de la situation, vous avez un peu plus de relations pour essayer de merger votre communication, d'avoir ouais. le coup de l'autre ou.
Ouais, excuse-moi. On essaie toujours de garder quand même une certaine communication là avec la 1642, la 127 aussi là qui sont un peu moins nombreux mais qui sont juste à côté de nous. Par contre, comme Max dit, ben vu qu'on est à l'opposé du stade, donc c'est quand même assez difficile de coordonner certaines choses. Puis il y a aussi le côté mentalité, ce qu'ils font, leur mission, leur vision d'un groupe de supporters est assez différente de la nôtre. Mm-hmm. Et c'est correct, là, malgré ce qui peut se dire sur Twitter, on vit très bien avec ça, puis eux aussi.
Moi qui voulais des guerres Twitter, man, c'est dommage.
Non, mais vous êtes ouais. Vous êtes pas fou, vous êtes au courant que les spectateurs neutres, si on veut les appeler mm-hmm. comme ça, ils vous regardent.
Il voit deux factions.
Il voit vraiment de l'opposition. Oui. C'est assez clair que la mentalité est différente et c'est correct. Ça existe partout dans tous les clubs du monde. Il y a des mentalités différentes. Mais ce que les gens perçoivent, c'est que c'est pas seulement qu'il y a une mentalité. Souvent, on voit comme une confrontation. Ce que je comprends, c'est que c'est pas vraiment ça. T'sais, vous êtes des fois pas d'accord, mais vous êtes pas en train de dénigrer en face et vice versa. Vous faites vos affaires parce que vous avez vos messages. Eux, ils peuvent faire à leur façon. Ça vous dérange pas plus que ça. Exact?
Ben, c'est ça.
Oui, c'est en plein ça.
Parce que le truc, c'est qu'il y a beaucoup de choses autour des ultras en général. Puis même si je vis qu'en Europe ou ailleurs, c'est qu'on est tout le temps en mode ressenti. Je ressens qu'il y a des rumeurs, mais il n'y a pas de rumeurs du tout là, mais genre, il y a confrontation, il n'y a pas de confrontation, vous êtes dans votre coin, vous n'êtes pas dans votre coin. Vous voyez, il y a tout le temps des. Comme vous ne communiquez pas, parce que sinon, vous n'avez pas d'entreprise, là, vous n'avez pas que ça à faire. Puis vous avez choisi depuis le début, quand j'ai vous contacté il y a 10 ans, que bon, vous parlez en public, ça ne vous intéresse pas. Puis c'est correct, vous n'êtes pas là pour faire des cover shoots de magazine GQ là, et de
Elle Magazine. Il faut envoyer du gear à des influenceurs, c'est ça qu'il faut faire, les gars.
C'est ça, ouais. Ça ne s'entend pas dans la couverture de Elle Magazine, ce n'est pas votre truc là, au Châtelain, mais juste plus pour dire que c'est un truc que je vous avais dit. Alors, quand je dis vous, genre la personne qui l'encourait dans le Twitter DM il y a quelques années, genre, il faut parler un peu juste pour un peu parler foot, là, mais je comprends le choix. Mais vous comprenez qu'il y a comme un ressenti que comme c'est un peu mystérieux. Glock, pas de côté négatif, mais plus genre flou. Vous évoquez, c'est le upside down world, là, c'est un autre monde. Vous voyez un peu la perception que ça pourrait donner, tu vois. Donc, c'est pourquoi, quand des fausses guerres de factions arrivent, il n'y en a pas vraiment. Puis, ça, je le savais. Mais c'est plus pour vous expliquer la perspective de gens que eux, de l'extérieur, j'ai bien.
Mais ça fait aussi un peu partie de la culture ultra d'avoir ce côté un peu mystérieux. Et puis, nous, ça ne nous dérange pas plus que ça. Au contraire.
Non, oui, non, c'est votre choix, c'est votre choix. Moi, j'explique juste la perception.
C'est bien de comprendre, parce que si c'est clairement votre objectif d'être là, on va parler quand ça vaut la peine, autrement, vous laissez aller les choses. C'est un peu votre façon de faire, exact?
Ouais. Oui, on a choisi de... On aime beaucoup mieux s'exprimer via les outils qu'on a au stade, donc via des bannières, via des typos, via nos chants surtout. C'est là qu'on est à notre mieux puis qu'on a le plus d'impact avec le mauvais jeu de mots. sur le terrain, sur les joueurs aussi. Puis on l'a vu à travers les années là, que certains messages sont encore qui ont été repris par le club, dont le fameux whatever it takes qu'on avait mis à l'époque, qui a fini par être sur le col d'un chandail du club. Donc c'est des choses qui restent à travers l'histoire.
Le club est bon à faire ça, à reprendre des choses. Mais je fais pas ça pour vous confronter. Hein. Je mets un peu que l'avocat du diable pour dire. Parce que moi, je sais, vous, ce qui vous intéresse, c'est genre fumigène, drapeau, chant, camaraderie, supporterisme, ambiance, football, but, pas but. D'autres sont peut-être sont pas là pour le foot, sont juste là pour l'ambiance et juste sauter comme des fous. Chacun a son propre truc, ça vous a pas homogène. Même vous qui parlez, vous parlez au nom des ultras, mais vous pouvez pas représenter tout le monde. Il n'y a pas un cerveau.
Exactement.
C'est ça, donc c'est plus ça. On prend juste pour que les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, alors que vous êtes représentatifs, mais pas de tout et en tout temps. Donc, je trouve ça très difficile à New Wave en général dans la ville de faire ça. On rentre dans le rebranding, is it time?
Ouais.
Mm-hmm. Bon.
Hein? Allons-y.
Bon. Ben, la question la plus simple, ça a été quoi votre promo? Tu sais, parce que veux pas, on était préparé là. Tu sais, c'est pas une réaction à chaud là. Ça faisait plusieurs semaines qu'on savait que ça s'en venait. On peut aimer ou ne pas aimer le choix du nom, le choix du logo. Selon moi, dans notre conversation, c'est quasiment pas important. Tu sais, c'est le fait de changer qui provoque un choc chez les supporters, dans votre groupe à vous. Qu'est-ce que ça provoquait en vous comme sentiment principal?
Vas-y, Max.
Vas-y. Bon, c'est sûr que nous, quand on voit la nouvelle qui sort dans ce Radio 4,
tout ça, exact.
On en discute entre nous, on se dit, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Donc là, tout de suite, on essaie de contacter le club nous répond qu'il ne commande pas les rumeurs, blablabla, comme ils ont dû répondre à peu près à tous les gens qui leur ont posé la question. Donc, on finit par.
Max, je peux-tu t'arrêter deux secondes? Tu n'es pas obligé de répondre à cette question-là? On contacte le club. Vous parlez à qui au club? Vous ne parlez pas à votre représentant des ventes. Là.
Non, mais il y a des personnes au club qui sont en charge de communiquer avec les groupes de supporters.
OK. Ouais. Et puis, ce que vous leur dites est relié à la direction. Vous savez que votre message a été relié à la direction.
Ouais, ouais.
La direction, ça peut être. Et ça peut autant inclure Nick, DeSantis, Joey Saputo, Adam Braz, que maintenant qu'avec Guillemot et Léver Renard. Genre, c'est.
Mais il y a quelqu'un qui son rôle années. À lui, c'est de vous parler.
Ouais.
On ne va pas nommer son nom ni son boss, juste par respect là, pour la personne. Mais
vous avez
c'est quelqu'un qui est dans l'exécutif du club et qui communique quotidiennement là, avec Gilmour avec Joey.
Donc, votre message ou votre question, vous le savez qu'elle a été entendue par les personnes qui doivent l'entendre.
Oh ouais. On voulait déjà savoir si c'était vrai.
Ouais.
Et puis, si c'était. Ouais. Puis, dans le cas échéant, si c'était vrai, on voulait dire que nous, ça nous faisait vraiment peur.
OK.
Mais après, ça, c'était pas.
C'est
pas
surtout, c'est ça que. À l'époque, en décembre. Quand les rumeurs sont sorties, on avait encore un certain espoir que ça allait être un rebranding au niveau du logo où les couleurs allaient être modifiées un peu, mais qu'on allait garder le nom Impact Montréal tel quel ou avec une petite modification, mais sans en changer l'essence du nom du club en tant que tel.
Okay.
Le changement de nom, tu sais, Max, tu as parlé de peur. Vous avez peur de quoi exactement? Peur de... De perdre l'histoire du club, peur d'un changement d'identité, peur que c'est un tout nouveau club. Vous avez, tu sais, c'est peur, c'est veut pas, c'est un gros mot là, pour un club, mais essentiellement, c'est qu'est-ce qui vous faisait peur?
Bah, en fait, ce qui nous faisait peur, c'est ce qui est arrivé. On avait peur que ce soit exactement ça qu'ils nous proposent, genre. C'est quelque chose de comme pas cohérent, qu'aller à l'envers de tout ce qui avait été fait avant. Il y avait toute une histoire avec l'Impact, puis on sentait que M. Guillemot était arrivé pour faire du ménage, mais finalement, en fait, il a juste tout effacé. Quoi.
Le ménage, il voulait nettoyer quoi exactement? Est-ce qu'il voulait nettoyer le club? Est-ce qu'il voulait les tribunes? Il voulait la réputation?
Non, je pense que c'était vraiment plus au sein de l'organisation. Il voulait essayer de clarifier des choses, et puis ça faisait plaisir à pas mal de monde aussi parce que c'était assez flou comment ça fonctionnait à l'Impact. On avait du mal, il y avait Joe et Saputo, on avait l'impression qu'ils contrôlaient tout, 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 tout. Donc là, c'est vrai qu'on se disait, ah, il commence à avoir une structure un peu plus...
corporelle.
Ouais, c'est ça qui est un peu dommage avec tout ça, c'est qu'on avait le sentiment du côté sportif, puis même du côté de l'administration, qu'on s'en allait comme dans une bonne direction avec les Olivier Renard là, qui semblait faire des choses dans la même voie que Thierry Henry, il s'en allait dans la même, au niveau tactique aussi sur le terrain, ça commençait à ressembler à quelque chose qui était plus intéressant. Puis là, tout d'un coup, on arrive avec ça qui efface complètement les 27 ans ou les 28 ans précédents de l'histoire du club. Et juste pour revenir à ce qu'on disait au début, c'est qu'on a beaucoup de membres qui sont là justement depuis 10, 15, 20 ans, qui ont passé énormément de temps et qui ont dépensé aussi beaucoup d'argent à voyager, à faire rayonner le nom de l'Impact à l'international, que ça soit au Mexique, que ça soit ailleurs en Europe, dans d'autres stades. Pour la Ligue des champions aussi, à plusieurs reprises, on a voyagé. Puis à chaque année, en MLS, là, aux États-Unis, avec nos déplacements. Donc, la peur, c'est vraiment d'être coupé de cette histoire-là et de ces moments qu'on a vécu avec tout le monde.
Est-ce que vous avez l'impression que, pas de façon volontaire, parce que je vais donner la présomption d'innocence, en guillemets, ou de bonne intention, Est-ce que vous avez été l'impression, quand vous avez eu cette peur, cette crainte, ce spider sense qui vous a dit oh, il y a quelque chose qui va arriver, on va pas aimer, que ce changement drastique était fait exprès pour couper avec l'histoire, mais non, que c'était pas fait exprès, que couper avec l'histoire n'était pas nécessairement exprès, mais c'est une conséquence quasiment nécessaire d'un changement drastique. Vous dites, OK, ben on coupe avec l'histoire parce qu'on sait que l'Impact existait. Sandro Gardner était là, Biello, Benjamin Marango existe, Patrice Bernier était là. Je suis fatigué, là, etc.
Ouais, donc, il n'est plus là.
Donc, mais lui, c'est l'histoire de l'Impact, c'est ouais. Des images, etc. Est-ce que, même si vous aurez dit, les gars, c'était pas fait exprès, mais c'était nécessaire, est-ce que, anyway, si on vous dit que, même si on change le logo un peu, il fallait quand même sortir de cette. Ce marasme que eux ils ont dit, ben nous l'Impact est commencé, il fallait qu'on fasse une page blanche là, qu'on ouvre un nouveau livre en fait. Est-ce que vous dites oui, c'est on comprend, mais ou pas du tout, le changement même drastique n'était pas nécessaire ou était incompréhensible, et est-ce que ce changement là vous dites si nous avez consulté ou pas, ça n'a rien changé par rapport à votre gestion de ce changement là?
Bah, changer le nom, pour moi c'est incompréhensible. Remanier le logo, faire des modifications un peu de couleur, de maillot, tout ça, on est habitué, on voit ça partout, mais changer un nom, c'est vraiment l'étape ultime, là, et puis c'est sûr que si nous avait dit on veut changer le nom, ouais, probablement qu'on aurait...
Vous auriez été un peu plus réceptif?
Hein?
Si vous parlez, vous auriez été un peu plus réceptif?
Bon, on aurait au moins pu essayer de négocier, d'apporter nos arguments.
Ok, André, vas-y André.
Ben, c'est aussi dans le sens qu'on aurait pu les guider vers quelque chose qui aurait fait, pas l'unanimité parce que c'est impossible, mais qui aurait fait beaucoup plus de, qui aurait généré beaucoup plus de réactions positives que ce qui a été fait. Donc, soit de garder le mot Impact, on s'est souvent parlé, est-ce qu'on dit, est-ce qu'il aurait changé pour Club Football Impact Montréal avec un logo complètement différent, des couleurs un peu changées. Je pense que ça l'aurait beaucoup mieux passé que ce qui nous a été présenté en ce moment.
Mais attends, Sofiane. Est-ce que ça se peut que finalement votre réputation d'intransigeant, tu sais, le fameux glauque, mystérieux, tout ça. Qui
le méchant, là. Le méchant avec les écharpes, là.
Vous êtes vu comme les méchants, intransigeants du stade. Cette réputation-là finit par vous nuire parce que le club. Et on l'a entendu Kinsley, on l'a entendu Gilmore dire, ben de toute façon, ils sont jamais contents de rien, tu sais. Ils vont peu importe ce qu'on va leur dire, ils vont dire non. Puis là, quand je vous entends tous les deux, je vous dis, ben on pourrait négocier. Négocier, ça veut dire, en principe, que vous êtes prêt à céder certaines choses. Est-ce que c'est possible que votre réputation fait en sorte que le club se dit, ben non, c'est impossible de parler avec eux? C'est une question chienne, mais...
Ouais, non, ça va, parce qu'on l'a déjà entendu. Mais... c'est sûr que oui, ça l'a joué certainement un rôle, mais le contre-argument de ça, c'est OK, fine, le COP, les ultras, ils sont toujours négatifs, sont toujours mécontents, ils font jamais rien de bon. Mais pourquoi vous n'avez pas consulté les 8500 autres abonnés de saison? Pourquoi vous n'avez pas consulté même la 1642 qui nous confirme qu'ils n'ont jamais vu Kingsley, qu'ils n'ont jamais parlé à personne? Ni aucun autre groupe ou abonné de saison là, dans le stade. Donc, cet argument-là tombe un peu à l'eau parce que tu dis, OK, les ultras, c'est une chose. Mais dans le fond,
vous autres aussi, vous êtes méfiants d'eux parce que, tu sais, quand je le sens là, que vous entendez leurs arguments puis, tu sais, vous y croyez plus ou moins. Donc, tu sais, cette relation-là de méfiance d'un côté et de l'autre, elle existe, là.
Non, mais... Mm-hmm. Elle existe, mais aussi comme il faut se baser sur les antécédents. Et puis, ils peuvent nous reprocher bien des choses, on est d'accord avec eux. Mais souvent, quand on s'est opposé à eux, c'était pour des choix qu'ils avaient faits. Et puis, je me dis qu'on n'a peut-être finalement pas eu tort de s'opposer à eux parce que maintenant, ils sont rendus à un point qu'ils sont obligés de... Genre, la seule excuse qu'ils ont... La seule chose qu'ils ont proposée, c'est juste de tout se passer. Donc, ça veut dire que ce qu'on critiquait avant était... finalement peut-être critiquable.
Ouais. Mais quand tu parles de... on voit qu'ils effacent le passé, entre guillemets, intentionnellement ou pas, parce que même moi, disons que je peux me mettre dans une zone neutre par rapport à ça, entre guillemets, je suis pas du tout neutre là, mais j'essaie d'être le plus possible, c'est que quand ils ont présenté leur nouveau projet avec le club de foot Montréal, puis le logo, etc., ce truc que moi, que je trouve qui manquait, c'était expliquer la transition. Mais je pense que s'ils avaient expliqué ça, peut-être vous auriez été convaincu. Ou peut-être vous auriez été moins énervé. Vous auriez dit, bon, OK, on va se faire chier pendant un an et demi, deux ans, on va rire de nous. Après deux ans, on va s'habituer, puis c'est bon, on va gagner des matchs, puis on aura une petite rancune, mais on va oublier. Pas oublier, mais on aura une rancune, mais ça va passer parce que bon, c'est ma ville, c'est mon club, etc. Mais moi, je trouve que c'était une des choses les plus manquantes. Que tu n'expliques pas du tout la transition. Bon, et ne pas expliquer pourquoi tu changes de l'impact à ça. Si c'est sensible, je comprends. Mais fais un effort d'expliquer un minimum. Et je trouve que la présentation les a nuit tellement, en tout cas, a été trop boiteuse pour le niveau de changement et le degré de changement qui a été fait. Et je trouve que c'est ça qui les a fait mal. Moi, je pense honnêtement aussi que Radical, qu'on veut vous étiqueter, en tant que groupe, là, peut-être des gens de radicaux dans votre groupe ou dans d'autres groupes, mais en général, je ne pense pas que c'est un groupe radical tel quel. Peut-être vous auriez été un peu plus adouci par rapport à ce choix-là s'il y avait une explication. Un minimum, parce que j'avoue, est-ce que vous avez eu des questions et des réponses internes? Non. Vous avez vu ce changement-là? Pourquoi? Ben, je ne sais pas. J'ai vu la conférence trois fois, on ne sait pas encore.
Ouais, mais il n'y avait pas de... Ouais. Mais j'ai du mal à croire qu'eux croient vraiment à leur projet, là.
Ok, vas-y.
Mais c'est fort, parce que ces gars-là, ce groupe-là, ce petit groupe-là travaille depuis 18 mois, 2 ans, puis là, ils ne croient pas au projet.
C'est une équipe de marketing, ils ne sont pas énormément, à mon avis, puis eux, ils ne voient que la réussite via le marketing. Ouais, ils pensent qu'il n'y a que ça qui va faire que l'équipe va marcher. Il y a plein de clubs comme ça, on voit, et c'est toujours les mêmes entraîneurs pourris, c'est toujours le recrutement pourri. Mais par contre, ils changent le logo et puis un peu le maillot et puis ils font « c'est bon ».
C'est bon, c'est dalle.
Mais on sait tous très bien que si l'équipe, elle joue mal, t'as beau avoir tout changé, il n'y aura pas plus de monde au stade. Hein. Les gens qui ne venaient pas avant au stade, ils vont dire bah, « ils jouent toujours aussi mal, j'y vais pas ».
Mais pour venir à ma question trop longue, je vais raccourcir. T'as commencé à répondre, Marc, merci, mais je vais la raccourcir. J'ai réalisé que j'ai perdu tout le monde, je pense. Si on vous a expliqué le changement, si on a expliqué le changement publiquement, est-ce que vous l'aurez mieux accepté? Vous vous dites non, basta, Fadjet, moi j'accepte pas parce que c'est mon club, tu changes pas le nom comme ça.
Pas au niveau du nom. Le nom, c'est quelque chose qui était vraiment ancré dans notre ADN, si on veut. Puis comme on l'a expliqué aussi dans notre communiqué, puis plusieurs autres ont mentionné, c'est que le nom fait partie vraiment de l'écosystème d'un club de foot. Puis c'est comme si tu arrachais la tête de cet écosystème-là volontairement. Donc le nom, ça l'avait pas passé, mais comme on disait tantôt, de mieux l'avoir présenté, surtout si ça fait 18 mois qu'ils travaillent sur ce projet-là. On a vérifié pour le fun quand ça l'a sorti, on a eu au moins 5, si c'est pas 6 rencontres face à face pendant plus qu'une heure à chaque fois avec le club, dont ces rencontres-là, Kevin Gilmore était aussi présent, les gens avec qui on on fait affaire d'habitude, on était là aussi. Puis jamais, ce concept-là est sorti dans aucune de ces rencontres. On nous a tout le temps parlé de, oui, on a des projets d'agrandissement sur le stade, oui, on veut s'aligner pour la Coupe du Monde 2026, oui, on veut travailler avec les groupes de supporters, mais ils ont eu mille et une opportunités d'amener ce point-là, de quelque façon que ce soit, ça n'a jamais été fait. Donc, c'est ça qui nous a frustrés encore plus de tout ce processus.
Parce qu'à la conférence de presse, lors de la présentation, il l'a dit clairement, là, c'est une des premières choses que Kevin Gilmore a dit au propriétaire de Joey Saputo, c'est s'il était ouvert à un rebrand. C'est-à-dire, dès son embauche, même avant son embauche, c'était son premier dossier sur la pile, c'était le rebrand. Et vous ne l'avez jamais vu venir jusqu'au moment où Radio-Canada en parle. Pour vous, c'est une totale surprise.
Ouais.
Ouais. Dans votre lettre, là, vous parlez de trahison, puis ça m'a un peu frappé, là, parce que quand on parle de trahison, ça implique qu'il y a une relation de fidélité ou de grande amitié, tout ça.
Loyauté indéniable.
Ouais, ben, ça va dans les deux sens. Puis moi, quand je vous vois avec le club, j'ai pas l'impression, là, mais je suis pas mal sûr de ça. Vous aimez beaucoup plus le club que l'inverse. Moi, je me dis, comment ça se fait que vous ne l'avez pas vu venir? Je veux dire, tout le monde voit que le club, il vous accepte parce qu'il vous donne vous leur donnez quelque chose, mais si c'était quelqu'un d'autre, ça serait encore mieux. T'sais. Comment ça se fait que vous vous sentez si trahi par le club qui, dans le fond, ne vous aime pas tant que ça? Là?
Est-ce que c'est un wake-up call pour dire au fond… Non, mais Nathan en a un bon point, parce que est-ce que c'est juste…
Mais tu sais, moi, c'est sûr que dire ça de l'extérieur, tu sais, vous êtes dedans. Là, oui, c'est sûr que de l'intérieur, tu sais, moi, je vous regarde, tu sais, je suis en plein milieu du stade, là, je vous regarde aller, puis tu sais, je vais être honnête avec vous, je ne suis pas toujours d'accord avec vos opinions, tu sais, puis ça, c'est correct, c'est normal, tu sais. Des fois, je dis « oh, right on », des fois, je fais « ouf, tu sais, pourquoi vous faites ça? » Mais le club, à chaque fois que vous sortez un message, ils sont fâchés, là. Donc… Comment ça se fait que vous vous sentez si trahi? T'sais, c'est sûr que pour vous, pour eux, votre saut d'acceptation n'est pas si important que ça. Non?
Je pense que le négatif ressort beaucoup plus aussi là, de l'extérieur, peut-être, parce que, juste donner quelques exemples, il y avait un sondage il y a quelques années fait auprès de la clientèle de l'Impact, puis la première raison pourquoi les gens venaient au stade, c'était même au-delà des performances, c'était l'ambiance. Puis, quand on dit ambiance, ça va avec les groupes de supporters. Et ça, le club le savent très bien. Ils savent aussi le plus qu'on peut apporter au niveau rayonnement, justement, avec tous nos tifos qu'on fait. Des trucs qui se retrouvent un peu partout en Amérique du Nord, dans les publications, en Europe aussi, dans les magazines qui traitent la culture foot. Donc…
Mais justement, André, je me pose la question, est-ce que le club vous aime bien pour les jolies photos sur Instagram et sur les vidéos MLS et les cartes postales à l'aéroport? Puis le reste, on s'en fout un peu. Puis j'ajoute encore plus, si vous étiez 10 000 au lieu de 2 000, si vous étiez de 10 000…
2 000, ça serait pas pire déjà.
10 000, vous aurez un poids, même 5 000, 6 000, vous aurez un poids beaucoup plus intéressant déjà. La relation serait différente. Est-ce que vous le sentez ça, ce shift potentiel?
Oui et non, parce que si on regarde ce qui se passe ailleurs aussi, les équipes marketing, généralement, ne consultent jamais les groupes de supporters.
Ouais.
Donc, je pense qu'on pourrait être le double, triple, je ne suis pas sûr qu'ils… En plus de ça, je suis très rancunier. Donc, une bannière un peu piquante, et puis là, en travers de la gorge pendant 5 ans.
Ouais.
Donc, c'est sûr que…
Ouais, ils ont sorti un truc… Pré-MLS dans l'entrevue.
On aura toute une section spéciale sur les ultras et Nick. On va en parler plus tard. Là. Je suis intéressé par ça. Là.
D'ailleurs, juste pour revenir, Nilton, à ton point, là, ce qui a été dit, c'est un truc qui est complètement faux. Ce n'était pas une protestation par rapport au logo et à la transition à la MLS. C'était par rapport à ce que Nick avait dit. D'ailleurs, notre premier tifo en 2012 pour la MLS, c'est… au stade olympique, là, les grandes lettres IMFC. On n'avait absolument rien contre ce changement-là à l'époque.
Oui, mais ça revient un peu à ce qu'on disait. Votre manque de communication volontaire fait que de temps en temps, votre message, il est interprété ou pas du tout. Et on crée un nouveau message. Puis ça, c'est normal dans plein de choses. Là. Mais moi, Le truc qui me chicote quand même, là, c'est que moi, je me demande, c'est que je vois pas comment le club aurait pu consulter des gens sans qu'il le secret ne sort pas pour dire « Ok, on veut changer le nom. » Parce que, regardez, je vous mets dans un scénario qui existe en ce moment par rapport à l'impact, CF Montréal. Financièrement, c'est pas un désastre, mais c'est très mauvais ce qui arrive avec le club. Vous vous en foutez un peu, c'est pas votre job, mais nous aussi, mais financièrement, c'est pas bien. Les billets sont pas assez vendus. Des clubs dans le fin fond des États-Unis vendent 25 000 billets de saison. Le stade, il fait juste 15 000, mais ils ont une liste d'attente. Ils voient ça, ok, il y a un problème. Sportivement, un malaise, et je le dis de façon claire, c'est une catastrophe ce club-là. Il y a des pics. Non, par rapport à l'investissement, ça commence à devenir dérangeant.
C'est une catastrophe dans la. Il peut vendre demain matin, puis encore une fois, la famille, ça a plutôt fait plus d'argent avec un move. Donc, ce scénario-là.
J'oublie les mots.
Je vais mettre un bémol.
En termes de performance sportive, en MLS, l'impact, c'est pas très bon. On se souvient seulement des bonnes années, des Drogba, des belles danses, de porteurs, c'est bien, mais le reste, c'est du néant quand même. J'essaie de négatif pour ramener ce point important. Est-ce que vous comprenez pourquoi le club aurait pensé à faire ça? Les gars, on ne fait pas assez d'argent, et sportivement, c'est catastrophique. Pourquoi on ne change pas aussi le branding tant qu'on y est? Tu sais, on fait un 2-1. On ramène Renard Henry, et moi, je vais faire mes process internes dans la compagnie pour faire que ça marche mieux, qu'on vend plus. Bah, tant qu'à faire, on change le nom, tout ça, parce que tout le monde pense à Joe Saputo, tout le monde pense à Robillard, on veut passer à autre chose. Est-ce que c'est compréhensible ou pour vous, genre non, même ça, c'est pas logique?
Pour moi, c'est pas trop logique parce qu'on sait tous que si tu veux vendre de la marchandise, mets une équipe qui gagne sur le terrain, puis tu vas remplir ton stade et puis tu vas vendre des maillots. C'est pas, tu peux mettre le plus beau maillot du monde. Là, si ton équipe, elle est nulle, tu vas pas la vendre. Tu vas pas le vendre. Moi, je vois ça comme ça, en tout cas.
Bon, oui. André?
Ouais, la même, je partage l'opinion de Max, c'est qu'on a eu des. Le nom, l'impact a jamais empêché des grands noms. Du foot international à venir ici. T'sais, on a quand même eu la chance de voir Nesta, qui était un des plus grands défenseurs de son époque. Oui, OK, il était à la fin de sa carrière, mais il est quand même venu à Montréal. On a eu Dibayo pendant plusieurs belles années. On a eu Drogba. On a eu Piatti. On a eu même Bernier qu'on a réussi à ramener d'Europe ici. Donc, si pour lui, le nom L'Impact voulait rien dire et que c'était pas identifiable avec lui, il serait jamais revenu. Donc, pour nous, c'est un argument qui n'existe pas vraiment. Avec Drogba, le stade était plein à chaque match. On avait de la difficulté à trouver des billets individuels, même dans le cup ou n'importe où. C'est pas une raison pour faire ce changement.
Est-ce que c'est une erreur? T'sais, actuellement, là, on parle tellement de victoires puis d'équipes sur le terrain. T'sais, tout le monde veut gagner. C'est normal. Être fier de son club, c'est d'autres choses que la victoire, non?
Oh oui.
Ouais.
Pourquoi qu'on ne focus pas de plus que ça sur le fait que le club, c'est le club, pas seulement de Montréal en plus, c'est celui de la province, puis qu'on soit bon ou pas bon, c'est pas important, c'est notre club, point final. Pourquoi il faut toujours ramener l'argument à la fin, dire ben, on n'a pas besoin de marketing, on a besoin de victoire. Ben, wow, bravo. Je veux dire, tous les clubs veulent ça, mais une fois, on a la chance avec ce sport-là, on a la chance d'avoir une identité propre québécoise, c'est notre club et dans les autres sports, ça se perd parce que le club devient international puis on est dans des mécanismes totalement différents en Amérique du Nord. Pourquoi le club ne focus pas sur l'aspect du territoire et c'est notre foot, notre façon, on va progresser à notre rythme et ainsi de suite. Pourquoi qu'on tape pas sur ce clou-là au lieu de viser des trucs internationaux un peu abstraits?
C'est une bonne question que malheureusement, je pense pas qu'on va être capable de répondre aujourd'hui. Mais nous, on a souvent poussé sur cet angle-là aussi. Les dernières années, on a souvent été présents les week-ends à l'académie, à la caserne. On a vu deux, trois, quatre matchs de suite. Puis honnêtement, l'émotion qu'on ressentait des jeunes et la fierté qu'ils avaient pour jouer devant des supporters puis devant pour leur club à Montréal, c'est quelque chose qui est pas mesurable. Il y avait une belle chimie qui s'installait. On commençait à avoir des résultats au niveau des équipes juniors. C'est pas pourquoi on n'a pas poussé plus sur ça, vraiment monter sur l'histoire, impliquer plus d'anciens qui racontent l'histoire des anciens championnats. Il y a tellement de belles histoires avant la MLS aussi avec ce club. Il y a du matériel pour pour des années à venir, là, sans changer tout.
Est-ce que c'est, tu sais, même moi aussi, là, bien humblement, j'aimerais que le club revienne en arrière puis qu'il se, finalement, se rende compte que cette idée n'était pas si, si géniale que ça. Mais si j'essaie d'être, si j'essaie de mettre un comme on dit en, comme on dit dans les réunions administratives un peu trop plates, là, mon chapeau noir, là, je me dis, c'est-tu vraiment réaliste de revenir en arrière? Tu sais, je veux dire, l'engrenage, là, il est parti, là, puis loin, là. Tu sais, il y a plein de choses qui est déjà préparées. Tu sais, une campagne de rebrand, on ne peut pas arrêter ça comme ça. Tu sais, il y a plein de choses qui s'en viennent. Il y a plein d'argent qui a déjà été investi. Est-ce que c'est vraiment réaliste et faisable de dire, OK, stop, stop the press, on s'est trompé, on revient en arrière, on fait une pause. Pensez-vous que c'est une demande qui peut être appliquée par le club?
Nous, notre principale demande pour l'instant, on est conscient que c'est très compliqué de faire un retour en arrière. Donc, nous, on veut qu'ils réintègrent Impact Montréal au nom du club. Déjà, ça, pour nous, c'est notre combat. Après, c'est sûr qu'idéalement, on aimerait bien qu'ils changent le logo plus tard et tout, mais ça, on comprend qu'il y a tout un tas de marketing qui est en route et tout. Mais nous, on sait qu'on part dans un combat qui va être lourd, là. On est conscient que... C'est pour ça qu'on a mis du temps à réagir aussi un peu, à produire notre communiqué et tout, parce qu'on sait qu'on s'enligne pour 1, 2, 3 ans de protestations et puis de revendications.
Mais est-ce que si le club s'appelait plutôt Club de football Montréal et que c'était CFMTL sur le logo, si on parle du détail de l'esthétique, est-ce que ça aurait changé quelque chose pour vous? Ou si le nom était encore meilleur que celui de l'Impact. Il vous dit, vous trouvez un nom là, super. Les gars, on a un nouveau nom. C'est entre nous, la 1642 Ultra. Psst, comme, venez. J'ai un nouveau nom pour vous là. Pff, c'est de la bombe. Ils vont dire, ouais, j'aime ce nom là. On va faire une transition. On va parler des biélos. On va parler de ces bras, etc. Mais je vous dis la vérité, il faut qu'on change le nom. Il y en a un stigma pour vendre du corpo. Oui, le corpo, c'est pas votre truc, mais nous, on a besoin d'argent pour vous ramener Drogba le prochain. Mais voici le nom. Ce n'est pas que de foot, c'est quelque chose d'autre. Est-ce que vous vous dites OK pour sauver le club, entre guillemets pour sauver, de sa torpeur ou quoi qu'il arrive, genre les gars, l'impact qu'on a eu. Parce que moi, je rejoins votre message, OK? L'impact, c'est important, le nom. Mais si on vous dit que l'histoire, on la garde. Parce que je pense qu'un gros problème avec ce qui est arrivé, c'est que la présentation, on n'a rien présenté comme pour garder l'histoire. Donc ça
vous a fait peur. Il est dans les couleurs. Le noir s'appelle Noir Impact.
Ah, bah, c'est fait. Avec les fleurs vers le métro Vio, c'est vrai. Non, mais pour dire, si on a présenté ça, même si on vous a jamais consulté, mais on vous présente ça de façon plus claire, pour dire, les gars, on n'y parle d'histoire, c'est ça qu'on fait pour garder l'histoire. Voici Sandro, voici Biello, voici Bernier, voici Lignatis, ils sont ensemble, ils mettent le maillot. C'est pas le plus beau logo du monde, le nom est un peu weird, on va s'habituer, mais les gars, l'histoire, elle est là. Vous l'acceptez ou vous dites, non, c'est Impact, oublie ça. Change pas ça. Vous voyez un peu le dilemme.
Ouais.
Non, si on vous met face à ça, parce que le problème c'est que ils ont mal présenté. Donc à la base, tout ce qu'on parle en ce moment se base sur une présentation qui était bâclée à mon avis pour expliquer un changement majeur. C'est ça un peu mon hypothèse.
C'est sûr qu'il y a différentes façons de présenter ça, mais pour nous, ayant été consulté puis ayant participé à tout ce processus-là, on est 100% certain qu'on trouvait une façon, de préserver l'histoire et de préserver le nom Impact d'une façon ou d'une autre dans le nom du club. Parce que c'est un élément trop important de l'histoire pour le mettre de côté. Puis, c'est intéressant, Sofiane, que tu parlais des anciens. Ben, justement, pour nous, un des plus grands indices que ce rebranding-là efface l'histoire n'a pas été accepté. C'est que même des anciens qui travaillent encore pour le club, donc qui sont sur le payroll du club, n'ont jamais endossé ça. Ils n'ont jamais sorti publiquement pour dire « Oui, OK, moi, c'est beau. Ouais. » CF Montréal, c'est mon club, ça représente l'impact. On a vu Sandro Grande qui a sorti avec 40$ de marchandises sur lui sur Twitter. Mais à part ça, il n'y a pas aucun autre. Puis on ne va pas dévoiler cette édition-là, mais on a eu des contacts justement avec des anciens joueurs qui nous ont confirmé effectivement qu'ils n'avaient jamais été consultés et que pour la plupart d'entre eux, ça ne passait pas non plus.
Mais vous comprenez, puis Hilton, on avait parlé de ça en privé avant, là, c'est que les anciens, quand c'est fini, hein, avec le club. Hein. c'est à part ni Nick Santis, Bianco Bilo, Adam Braz, et même maintenant qu'ils sont plus là, ils sont plus là. Tous les anciens qui quittent le club, joueurs ou staff, déjà ça finit pas très bien, comme toutes les relations, c'est pas fait pour finir en beauté là, mais moi je fais l'avocat du diable. Avec Joe Saputo, quand c'est fini, c'est fini. Surtout qu'il a changé lui depuis Bologne, c'est un homme différent, il a d'autres responsabilités, ouais. Pas juste le club. Et je dis pas ça de façon négative, il a des ambitions, c'est parfait. Mais vous comprenez un peu que les anciens, moi je les adore. Hein. Moi les Rudy Doliskat, là, Lloyd Barker, Grant Eden, tous là, ces gens sont super importants pour le club. Gervais, etc., Pizzolito. Mais vous comprenez que quand c'est des ex, c'est des ex avec ce club-là. Et quand je dis ce club-là, c'est avec Joe Saputo. Ouais. Ce qu'on va dire la vérité, là, c'est Joe Saputo qui décide de tout. Donc, vous comprenez un peu le dilemme par rapport à ça.
Ouais, mais après, c'est à eux de dealer avec ça aussi, normalement, de faire en sorte de rassembler tout le monde. Que si quand tu sors ton projet et que tout le monde recule en arrière et a peur, c'est que tu t'es pas mal planté sur toute la ligne.
Est-ce que tu penses, Max, qu'il voit ça? C'est parce que moi et toi, là, on a peut-être cette perception-là. Moi, je vois des gens, je vois une majorité qui n'acceptent pas le changement. Je ne suis pas convaincu qu'eux, ils voient cette majorité-là. J'y vois aller, tu sais, Justin Kinsley a fermé son compte Twitter, je le vois aller sur Instagram, tout va bien, je vois les autres, tu sais, tout le monde semble très heureux. Là. Est-ce qu'on est tout seul, toute notre petite gang, à être frustré de notre côté?
Je pense qu'ils font semblant de ne pas voir aussi, puis ils espèrent que l'orage va passer, et puis... je pense qu'ils sont quand même très au courant parce que chaque membre peut communiquer avec son représentant pour qu'il transfère un message aussi au président.
Pauvre représentant. C'est pas facile d'être représentant ces temps-ci.
Ouais, j'aimerais pas être à leur place. Mais
avez-vous encore confiance? Au président, au groupe du créatif, avez-vous confiance qu'ils peuvent vous écouter, qu'ils peuvent s'adapter? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est brisé totalement ou vous gardez encore confiance?
Oui, il y a eu c'est sûr qu'il y a eu un bruit quand quelque chose comme ça arrive. Par contre, ce qu'on pense aussi, malgré ce qu'on disait tantôt, que ça va être un combat de longue durée, ça, parce qu'on connaît bien le club, mais il n'est pas encore trop tard pour admettre que ça a été un échec et qu'on va faire quelque chose rapidement, quitte à pas tout changer ce qu'ils ont présenté, mais faire quelque chose rapidement avant le début de la saison, puis repartir sur des nouvelles bases. On l'a vu à Chicago, ça a pris quand même un an, mais ils l'ont fait pareil, puis ils étaient en MLS aussi, donc c'est quand même possible.
Je voulais utiliser l'exemple de Chicago. T'sais, avez-vous parlé à d'autres groupes ailleurs en MLS qui ont peut-être vécu des situations comme ça? T'sais, des communications, des échanges de bons procédés et de trucs, là, ou pas nécessairement faire mal, mais t'sais, peut-être qu'il y a des trucs où la MLS est un peu plus sensible, ses propriétaires sont un peu plus sensibles, puis il faut attaquer dans ces coins-là si jamais on veut faire changer les choses.
Ben, on était en contact avec plusieurs groupes là, dernièrement. On essaie de. C'est dans le fond, le premier communiqué, c'était une première étape de notre stratégie. Les prochaines vont suivre sur les prochaines semaines et mois, mais une de ces choses-là, c'est justement d'aller chercher de l'appui un peu partout en MLS via nos contacts, aussi à l'international. Et justement avec des exemples concrets où il y a des changements comme ça qui ont été ratés, puis que finalement on a dû rebrousser chemin puis revenir sur des décisions. Donc on est confiant, on a eu beaucoup de réponses positives à date et des gens qui vont nous supporter là-dedans. Donc ça nous encourage à continuer cette démarche-là.
Est-ce que vous avez parlé aux supporters du Inter Milano par hasard?
Ils n'ont pas changé de nom, donc
c'est quand même... Mais je fais au conseil des sessions Zoom de thérapie de groupe là, pour un peu, pour un peu vous lâcher un peu. Après, vous pouvez continuer avec votre stratégie. Ouais. Mais je blague évidemment, là, mais c'est pour rire. Alors les gars, je suis un peu dans une impasse là, parce que j'ai essayé 2-3 fois, ça ne marche pas. Là, mais je ne suis pas là pour vous convaincre, juste pour un peu percer un peu votre armure, votre bouclier. C'est pour vous, le nom, on oublie ça, quoi. Genre, quoi qu'il en ait, pas qu'on oublie le nom, Impact doit rester. C'est ça, moi, c'est ma conclusion un peu hâtive. Parce que j'essaie deux, trois fois, mais ça ne marche pas.
Moi, c'est sûr qu'Impact, pour moi, ça ne doit pas bouger.
Okay.
C'est dans le monde du... Tous ceux qui connaissent un peu le foot, qui suivent un peu le foot, si tu dis un club de foot, Impact, tout le monde disait Montréal, c'était réglé. Il n'y avait pas de... Je pense que leur idée d'internationaliser les clubs, c'est... Mm. C'est un argument complètement bidon. Moi, je pense.
André?
Ouais, je pense aussi. Puis comme je disais au début, il y avait moyen de garder le nom Impact puis de rechanger même le nom en tant que tel. Ça aurait pu être positionné de façon différente dans le... d'échanger aussi. Si on voulait un côté plus francophone, il y avait moyen de faire quelque chose. Intégrer d'autres symboles dans le logo... Choses comme ça.
Parce que moi, le truc qui me confond, là, excusez-moi de parler encore, là, c'est que il y a tellement de choses qui s'entremêlent. Genre, je me dis, on n'a pas expliqué le changement, la transition. Okay, on n'a pas consulté les parties prenantes. Ok. On est resté dans un vase clos. C'est compréhensible. Quand tu fais des changements comme ça, peut-être tu ne vas pas en parler à tout le monde. Ok. Des inconsistances dans la présentation. C'est pas un flocon, mais la menace s'est dit ah ça c'est un flocon by the way. Ah oui c'est vrai c'est un flocon. Les casseroles s'accumulent, donc je me dis mais moi j'ai beaucoup de mal à savoir par où commencer pour essayer de pas de régler ça mais de trouver une solution, un compromis. Vous voyez un peu ce que je veux dire, parce que dans un scénario ils vous consultent, ils vous disent les gars quoi qu'il arrive on va faire ça. Vous faites votre processus de stratégie de communication, on n'est pas d'accord à faire des boycotts, etc. pendant 2-3 ans, whatever it is. Mais ça ne change pas quand même qu'ils vous ont consulté. Donc, je dis, nous, c'est bon, on est propre. On a fait notre travail, les parties prenantes ont été mis en cause, on nous a dit. On nous a fait signer un contrat de non-disclosure, vous dites rien, s'il vous plaît, parce que sinon, ça tue le truc. Mais vous, dans tout cas, vous n'aurez rien changé. Mais vous comprenez un peu le dilemme, genre... Je parle un peu pour ma propre thérapie, je ne sais pas par où commencer. Il y a tellement de choses qui. On sait, voilà, c'est un peu mon dilemme par rapport à ce rebranding-là.
Justement, il y a tellement d'aspects qui négatifs qui ressortent de ça que je pense que la première étape, ça serait de faire un mea culpa puis de dire OK, ben, regarde, justement, sur ça, on s'est trompé. On est ouvert là, à communiquer avec les supporters, on est ouvert à les écouter, on est ouvert à mettre des changements de l'avant assez rapidement. Puis je pense que ça serait la première étape, mais comme on parlait un peu plus tôt, du moins publiquement jusqu'à maintenant, il n'y a même pas l'ombre d'une reconnaissance de faute ou de même qu'on a essayé de sortir des chiffres que...
Oui, ils ont essayé de dénigrer les opposants que d'essayer de les convaincre.
Mais tu sais, ça s'enligne vraiment pour une grosse confrontation, puis vous êtes conscient que ultimement, autant vous allez finir par vous ennuyer de Nick DeSantis, là, aussi gros que ça. Là, ça va finir comme ça. Ça va finir que vous allez faire du bruit, beaucoup de bruit. Vous allez avoir votre lot de suiveurs. Une fois que le stade va être ouvert, vous allez continuer à chanter IMFC, vous allez continuer avec vos drapeaux. Je ne sais pas trop comment le club va réagir. T'sais, le club pourrait très mal réagir. Ça risque de... Je ne veux pas faire mon corbeau, là, mais ça peut dégénérer. Avez-vous comme un plan? Éventuellement, vous êtes prêt à aller jusqu'à où? Allez-vous faire comme on voit ces temps-ci, la grosse tendance en Europe, où vous allez chanter, demander des démissions? Êtes-vous prêt à aller très, très loin? Ou vous allez être simplement des soldats un peu tranquilles, continuer à manifester et espérer que le monde va vous suivre?
On n'est pas rendu à demander des têtes de qui que ce soit pour l'instant. Là. Puis on veut que ça continue à tranquillement. On espère qu'il y aura un dialogue en tout cas. Puis si on voit qu'il n'y a pas de dialogue, c'est sûr que petit à petit les protestations vont s'accentuer. Mais je pense que j'ai confiance quand même en Joe Saputo pour ça. Peut-être qu'un jour où il en aura, l'équipe va perdre, il va entendre impact dans la tribune et puis il va se fâcher.
Ouais. On connaît son côté impulsif. Vous allez mettre une poubelle pas loin là pour le provoquer.
Oui, c'est ça. pas loin du nouveau logo. Mais non, je pense que c'est un bon point, effectivement. C'est que même, je pense que c'est justement DeSantis qui parlait de ça dans une entrevue la semaine passée, c'est qu'il ne comprenait pas comment Joey a pu accepter quelque chose comme ça à son projet, à son bébé qui c'est sa fondation depuis
1993. Dans le fond, vous êtes dû pour un chant pour Joey Saputo. Là. Il a besoin d'amour. Il a besoin de ressentir qu'il n'est pas tout seul. Là.
Pour les 25 ans du club, on lui avait remis un petit trophée. On lui avait montré quand même qu'on respectait énormément ce qu'il avait fait et ce qu'il faisait pour le foot professionnel au Québec. Oui. Et il faudra être aveugle pour un...
Tout à fait.
Mais je suis un peu flou avec vos histoires de petites guéguerres avec Ned DeSantis, là, juste avant la menace. Là, je ne sais plus ce qu'il avait dit à Radio-Canada. Là. Je ne sais plus ce qu'il avait dit pour être provoqué. Ce qu'il a provoqué à dire que vous n'avez pas de vrais supporters, je ne sais plus pourquoi. Genre, j'ai jeté au stade quand vous êtes sorti du stade de revenus, durant l'inauguration du nouveau logo et du nom, c'est le même nom, Impact Montréal FC. Là.
Ouais.
Je me rappelle plus, je sais plus ce qu'il a fait dire, ce qu'il avait dit, là, je me rappelle plus. Mais est-ce que maintenant Nick c'est un allié, est-ce que vous lui avez parlé depuis qu'il a quitté le club ou genre c'est. Vous l'avez en DM sur WhatsApp, quelque part Je sais pas.
Non, mais je pense que lui aussi a fait vraiment une coupure avec l'organisation quand il a quitté. Il a quand même passé beaucoup d'années en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, en tant qu'administrateur du club. Puis c'est sûr qu'on a eu nos différends. À la base, ça a commencé sur le plan sportif, puis ensuite, ça l'a dégénéré vers d'autres choses.
Ouais. Ce que vous l'avez critiqué, c'est le sportif, là, en 2010-2011, je pense. Ouais. Il n'avait pas aimé ça, puis là, vous avez dit, vous n'avez pas de vrais supporters, c'est ça?
Oui, exactement. Puis ensuite, ça l'a escaladé jusqu'au fait qu'on sorte à la demi du stade.
Ouais, au dernier match.
Puis ensuite, Joey qui avait renchéri qu'on n'aurait jamais dû nous laisser rentrer à la mi-temps.
Vous avez fait vos recherches pour cette histoire-là.
Ouais. Moi j'étais. Puis ouais. je pense que Jesse Marsh s'est dit This is good. Je pense qu'il était là-bas, Jesse Marsh, je pense. Il était déjà au stade, je me rappelle. Mais ce qui est fou, c'est que. Bon, est-ce qu'on continue sur le rebranding, Nilton? Moi, je peux continuer pendant longtemps. Là. C'est,
non, mais.
Ça ne me dérange pas. Est-ce que je voulais un peu parler du relation avec le club de foot, là, club de soccer, je m'en fous du nom, là, mais est-ce que vous voulez encore quelque chose que vous voulez passer un message par rapport au rebranding, par rapport à vos prochaines étapes
Parce que sommairement, c'est qu'on a eu la première étape qui est le communiqué. Comme on a dit, on travaille beaucoup maintenant avec d'autres groupes pour aller chercher un peu plus de visibilité. Puis on a d'autres plans. C'est sûr qu'on a hâte d'être de retour dans le stade parce que c'est là que le message va le mieux passer. Je pense pas que quand il y a 20 000 personnes qui répondent au chant aussi lettre, qui chantent Impact, que ça va rien faire à personne du côté de l'administration. Donc, je pense que les changements peuvent venir naturellement aussi juste par le fait de voir les gens au stade puis qui continuent à porter l'ancien logo, qui continuent à utiliser les mêmes chants. Puis ça, on est quand même content des deux côtés, que ce soit en 114 ou de notre côté, on a clairement indiqué que le répertoire des chants n'allait pas changer du tout, que le mot Impact va continuer à se retrouver dans les chants où ce qu'on l'entendait déjà.
Votre prédiction de pourcentage que vous avez un appel Zoom avec Kevin Gilmore, juste pour... Si vous devez mettre un pourcentage, 0.
3? 3%?
Non, 0.
Non, il... Ben,
0 et 3.
Je pense qu'il va avoir une main tendue là, pour une rencontre. Ils nous l'ont déjà indiqué là, déjà en décembre quand on avait fait part de notre mécontentement et de notre peur par rapport au changement. Ils ont dit oui, on a d'autres projets. Par contre, il faut qu'ils comprennent que les autres projets viennent avec notre projet, c'est-à-dire de ramener le nom Impact. Donc, ça reste des rencontres assez intéressantes, mais on est là pour ça.
C'est ça aussi qui est un peu frustrant, c'est qu'on sent... On sent que genre ils disent « Bon, on va vous consulter pour ce qui est de votre tribune, mais pour le reste, vous n'avez pas votre mot à dire. »
Ouais, vous restez dans votre sous-ensemble, là, puis votre petit monde de Dungeons and Dragons, puis nous, on gère le reste. Nous, c'est les grands, là, puis vos dragons, là, puis vos merci, là. Merci pour les dragons, pour les fumigènes, c'est bien, là. C'est bien pour les photos, marketing, pop. Mais sinon, nous, on gère le truc des grands. Hein. Merci les petits, là, puis... je dis ça en blaguant, évidemment, mais juste pour... C'est un peu l'impression que vous avez, quoi. On vous traite un peu...
Ouais.
Comme des enfants,
qui me gêne un peu, là, ça va changer un peu de sujet, mais c'est quand j'entends le président Gilmore qui dit genre, on a réglé le côté sportif, maintenant, il fallait passer au côté marketing. Bah, moi, j'ai regardé les matchs cette saison, et puis le côté sportif, je ne suis pas encore convaincu qu'il est réglé. Il y a OK, je vois où ils veulent s'en aller, je suis d'accord avec ça, mais ils n'ont pas inventé grand-chose non plus. On s'entend.
C'est pas si monté encore.
Trouver des jeunes joueurs et les revendre pour faire un profit, c'est 90% des clubs qui font ça.
Puis donc, c'est pas 90 qui réussissent.
C'est ça. C'est un peu facile de dire ça, on l'a réglé. Maintenant, on s'occupe du.
Alors que ça va ensemble. Malheureusement, là, ils l'ont pas compris, ça va ensemble. Main en main. Mais peut-être s'ils le font en étape comme ça, c'est peut-être pour eux, c'est nécessaire. Parce que c'est plus facile d'avoir un directeur sportif et un entraîneur pour travailler sur 2-3 ans que. Essayer de vendre un rebranding, là, mais tu me fais une transition parfaite, Max. La question qui tue, là, pour moi, là, comment on fait pour supporter un club que sportivement est inconstant comme ça? Je comprends l'amour du club, la passion, tout ça, mais vous le voyez, quoi. C'est un coach par année quasiment, j'exagère, là, chaque 2 ans et demi, on n'a aucune direction sportive. On oublie Renard et Henry, là, ça c'est l'exception qui confirme la règle. Mais si on se base sur la MLS, là, on est d'accord que c'est. On est d'accord que comment on fait pour supporter un club qui est aussi inconstant sportivement? C'est malgré les émotions que ça a donné, c'est dur.
Supporte le club de notre ville. Et puis moi j'aime aller au stade et puis que le club gagne ou perde, c'est pas ça qui me fait aller au stade. C'est l'atmosphère, c'est l'ambiance, c'est tout ça. Donc
après, mais vous avez quand même parlé de critique sportive par rapport à Nick. Là, vous avez dit, je viens de dire que Gilmore, il dit que le sportif c'est réglé, je m'occupe du reste. C'est, le club est quand même imparfait, pas imparfait, c'est quand même faible pour moi, là, comme fan de foot. Pour un club qui joue pas en promotion ou relégation, je me dis, ben, pourquoi vous êtes aussi inconstant que ça? Pourquoi vous êtes tout le temps farfelu, tout le temps improvisationnel? Pourquoi vous attendez le DP magique qui va régler vos problèmes alors que ce n'est pas un modèle d'affaires qui va marcher là, dans le foot là, de façon consistante? Tu sais, vous faites comment? Moi, j'ai du mal en tant que fan de foot. Et même quand je l'écoute, je dis, c'est lourd. Il n'y a pas de ligne directrice. Vous vous dites, oui, vous êtes loyaux, vous êtes loyauté par rapport au club, à la ville, mais tu sais, vous avez des émotions internes. Vous dites, mais merde, c'est n'importe quoi ça.
Ah bah ça, c'est pas possible.
Puis ça nous d'être aussi présent tout le temps et loyaux, justement, ça nous permet de mettre de la pression sur le plan sportif aussi en tribune. Puis ça, c'est quelque chose que le club il l'apprécie quand même parce qu'on se l'est souvent fait dire que même dans la défaite, mais vous êtes là les mercredis soirs de Ligue de Champions de Coupe canadienne sous la pluie alors qu'il y a 6000 personnes au stade, ben le cop est quand même plein. Oui, c'est ça. Puis après ça, ben, il y a toute l'histoire de la culture ultra, la culture supporter qui nous réunit aussi en tribune. On pourrait parler pendant des heures de l'histoire de déplacement qu'on a eu de confection de typo pendant des journées entières. Ça crée une certaine camaraderie entre les gens. Puis c'est ça qui nous passionne là, en bout de ligne.
Là, on, comme tu as dit, on pourrait en parler encore longtemps. Ça fait une petite heure là, qu'on parle, puis on ne veut pas prendre toute votre soirée parce que les Canadiens jouent ce soir. J'imagine que vous devez absolument aller voir les Canadiens jouer. Non, c'est une blague. Je voudrais juste savoir, au niveau international, il y a quand même des gros mouvements là, qui se passent là, entre les dirigeants, les supporters, surtout en Ligue 1, là, ils s'abrassent pas mal. Votre point de vue, êtes-vous inquiet un peu par...
Comment
le foot business essaye un peu d'encadrer, ils essayent un peu de convertir la culture ultra en une culture de spectateur à peu près. Êtes-vous inquiet par ça? Et pensez-vous vraiment que c'est un mouvement qui est impossible à arrêter et où cette culture-là de supporters un peu plus impliqués est là pour rester?
Les gars, c'est CPP, là, on pose des questions. C'est André. On pose des vraies questions. Ça.
Moi ouais. ça va rester. La culture, pour moi, la culture ultra va rester. Il y a une partie de moi qui me dit qu'elle va disparaître des grosses firmes, là. des grosses équipes qui gagnent, qui, eux, peuvent se permettre de remplir le stade sans ultra qu'avec des bons spectateurs qui consomment.
Ça existe, déjà un peu comme en Premier League, c'est un peu déjà ouais. Ça. Là. C'est très, très corpo. Là.
Mais on s'entend que si on regarde, par exemple, la Ligue 1, ils en sont à des années-lumière et ils y arriveront probablement jamais. Donc, je pense que ce n'est pas une bonne idée de la part de ces dirigeants-là d'essayer d'exclure les groupes de supporters. Parce que déjà, c'est eux qui vendent les abonnements de saison, mais en plus de ça, il y a une partie des abonnés de saison en tribune latérale qui viennent aussi parce qu'il y a une ambiance stade. Donc, c'est dans la salle.
Je pense que c'est un bon exemple, justement, la Premier League, où ce qu'on. Volontairement, ils ont éradiqué pas mal tout ce qui était culture supporter et culture ultra, à part quelques exceptions. Mais alors qu'il y a d'autres pays qui ont choisi de travailler de concert, je pense plutôt à l'Allemagne, où il y a eu plusieurs projets qui ont été réussis avec différents groupes. Et tu regardes le mur de Dortmund, où tu as 5 6 000 personnes, même plus à chaque match. Donc, c'est quand même faisable et ça apporte un bonus pour l'équipe et pour le club aussi. Puis dans d'autres pays aussi, si je regarde en Europe de l'Est, où ce que plusieurs championnats que je suis, ça ne sera jamais éradiqué. C'est des virages de 10 000, 15 000 personnes à certaines places là, qui ont plus de pouvoir que n'importe quel dirigeant du club. Donc.
C'est bien. Sophia, as-tu une dernière longue question à poser?
Je pense pas, là, on s'est dit qu'on allait faire une heure, les gars, donc je vais pas prendre plus de votre temps. Je peux faire encore une autre heure si vous voulez, mais je veux pas un peu diluer votre message là aussi. Là, c'est parce que nous on peut parler longtemps. Là. On a fait hier un show de 3 heures au canapé, donc
3 heures. Je suis encore fatigué là.
C'est rien. C'est plus ça, c'est plus. Bah, vrai, je vous remercie d'être venu là. Je pense que si vous voulez revenir régulièrement, il n'y a pas de problème pour après
ouais,
chaque.
Tout à fait.
Chaque balise, chaque milestone là, de votre stratégie et vos démarches. Là. Voilà, j'espère que vous avez apprécié parce qu'on voulait un peu vous entendre parler au nom des ultras. Même si vous n'êtes pas homogène, vous avez quand même une ligne directrice pour dire bon, impact de Montréal, il ne faut pas que ça bouge. Pour le reste, on peut négocier. Puis voilà, si vous avez un dernier mot à dire, vas-y, Nathan, vas-y.
Bah, je vais donner un conseil de Saint-Saëns qui ne vaut absolument probablement même pas Saint-Saëns, mais je pense que vous auriez vraiment beaucoup plus. Davantage que d'inconvénients d'avoir un discours plus régulier parce que tout le monde se fait sa propre idée de votre groupe ouais. Et souvent vous perdez un peu le contrôle parce que les gens vont s'imaginer plein de choses, ils vont faire des associations un peu bizarres. Tu sais, dernièrement, j'ai vu des liens avec ce qui s'est passé avec Marseille et votre groupe. Là, je dis, wow, attendez, là, c'est pas ça pantoute, là, on s'en est pas. Mais tu sais, veux pas, tu sais, je te vois rire, Max, mais tu sais, tu peux pas t'empêcher, tu sais. Moi, des fois, personnellement, je prends 15 minutes avant d'écrire un tweet parce que je veux pas me faire attaquer, puis le premier reply, c'est une attaque, puis il dit, ah, merde, il a pas compris. T'sais, une fois que le message est lancé, c'est un problème, et je pense que vous vous retrouvez dans une situation qu'on soit d'accord ou pas avec la revendication que vous faites, c'est pas vraiment important. Mais au niveau stratégique, vous vous trouvez dans une situation où votre voix doit porter un peu plus que d'habitude. Sinon, bonne chance dans votre stratégie. En tout cas, c'est mon point de vue. Là, ouais, je ne sais plus si j'ai tort ou raison.
C'est juste pour éviter que les gens parlent pour vous. Ouais, je veux dire, qu'ils interprètent pour vous. Puis c'est un peu ça que je disais il y a quelques années. Je dis, c'est votre choix, je le respecte. Votre mandat est clair. Là. C'est la passion, le supporterisme, l'ambiance, la camaraderie, etc. Avec, vous exprimez à travers vos armes, les fumigènes, les drapeaux, etc. et les chants. Mais c'est important d'être un... Sans faire des communiqués, des newsletters là, comme une compagnie marketing là,
avec des codes promo.
Avec des codes promo.
Non, c'est sûr que c'est une façon de voir les choses. Puis on n'est pas aveugle non plus à l'interne. On voit souvent que des messages sont mal interprétés ou sont pris pour d'autres choses que ce qu'ils sont supposés être. Mais je pense que le contexte actuel aussi fait en sorte qu'on n'a pas la possibilité de s'exprimer au stade, donc. Quand tu vois une bannière ou un chant que tu entends, c'est assez clair. Il n'y a pas 10 000 façons de l'interpréter.
C'est sûr que votre grande force, la grande force de votre groupe, c'est le stade. Puis le stade, il est fermé pour on ne sait pas combien de temps.
C'est dommage.
Je pense aussi que les habitués du stade, Saputo, ont pas globalement, là, c'est sûr que n'ont pas un a priori si négatif que ça de nous. Après, c'est sûr que si on regarde la communauté Twitter, c'est peut-être différent parce que je pense qu'il y en a beaucoup là-dedans qui ne viennent pas au stade. Et donc, il y a c'est ça, il faut prendre avec des pincettes, je pense.
Non, c'est vrai. Mais juste.
C'est sur les réseaux sociaux, en tout cas.
Mais n'ayez pas peur d'être plus proactif dans la démarche publique. À l'interne, ça doit baser comme une ruche d'abeilles, c'est correct. C'est plus pour certaines choses, mais là, vous le faites clairement pour une cause qui vaut la peine pour vous là, et pour la culture foot montréalaise, ou comme dit la culture footy, si vous voulez.
en anglais,
c'est ça. Ouais, c'est comme vous voulez.
Ouais, un grand merci les gars d'être venus.
Merci beaucoup, c'est un plaisir, Max. Merci à André, puis merci de nous avoir écoutés. Voilà quoi. Couscous Piri Piri, Can Football Club, ça va nous trouver sur les réseaux sociaux, YouTube, iTunes, podcast, blablabla.
As-tu un unboxing à nous montrer, là, surprise? T'as non, toujours rien reçu de aucun gear?
Non, j'ai. Merci de la force du Malt. Boum. Voilà. Hey, ils font une bonne bière, les gars. Il faut les supporter, là, Guy et son équipe. Supporter le CanFC, Patreon. Boum. Two thumbs up. Et bon, les gars, je suis obligé de faire la promo, là, mais manscaped.com, code promo CanFC 20. C'est pour un peu le trimming de vos parties intimes, hein, n'hésitez pas. Donc, manscaped.com, 20% de rabais. Et les vos engrais.
On va le partager à l'interne. Il y en a qui vont en bénéficier.
Je vous enverrai le code là. Bon, c'est bien de finir avec un bon message corporatif après une heure de culture foot là. C'est un plaisir, les gars, d'avoir bien fini ça là. J'ai bien fait ça.
Merci encore pour l'invitation. Puis on reste de se reparler bientôt.
À peu près, quand vous voulez. Merci encore, messieurs. Prenez soin de vous. Ciao. Ciao tout le monde.
Merci. Bye bye.